qui étudie la Bible, attention un peu en profondeur, est frappé d'emblée par le fait qu'il existe deux généalogies du Messie. De plus, elles semblent contradictoires. En réalité, elles sont complémentaires. Et c'est ce que nous avons pour propos de démontrer en deux émissions. Il faut tout d'abord envisager une généalogie en tant que telle, c'est-à-dire l'origine et le but de ces narrations particulières, et deuxièmement, leur apparent désaccord. Troisièmement, ce que nous allons faire, c'est essayer de tirer une conclusion de cette situation. Tout d'abord, examinons l'origine de ce que rapporte l'Évangile écrit par Matthieu et par Luc. Les généalogies très courantes parmi les Juifs sont nombreuses dans l'Ancien Testament. On en trouve 10 uniquement dans le livre de la Genèse. Elles sont également multiples en laconique, ainsi d'ailleurs que dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Une idée maîtresse les guide. Soutenir la thèse que Jésus, le Christ, est l'héritier incontestable du trône de David, qu'il est bien celui que les prophètes annonçaient depuis la nuit des temps. Le peuple d'Abraham avait pour coutume de conserver minutieusement le tracé précis de son arbre généalogique familial. Cela lui permettait, en cas d'erreur, de confusion, de contestation, de lever aussitôt tout doute. Les généalogies citées dans le Nouveau Testament ont été tirées de ces annales publiques disponibles à l'époque de Jésus. Si quelqu'un éprouvait un doute quelconque à ce propos, il lui était loisible de consulter aisément les généalogies mises à la disposition de chacun. Cela se faisait sans que personne n'en prenne ombrage. Les gens de l'époque niaient la messianité de Jésus. Tout était fait pour passer son message sous silence et prouver aussi qu'il n'était qu'un imposteur. Cependant, jamais personne ne tenta de se servir d'une généalogie du Sauveur pour y parvenir. S'il n'avait pas appartenu à la descendance de David, cela aurait pu être fait très aisément, mais il était de notoriété publique que Joseph et Marie descendaient bien du grand roi. L'honnêteté scripturaire étant de stricte vigueur, les écrivains ne pouvaient faire autrement que de transcrire dans le Nouveau Testament ce qui existait déjà dans les généalogies précédentes. Cependant, aucune relation généalogique de la famille de David, mis à part celle de Matthieu et de Luc, ne prouvait que le Messie devrait descendre de cette illustre famille. Il existe, pour le moins en surface, une contradiction dans ces deux généalogies. Nombreux étaient ceux qui, au cours des siècles, ne les avaient pas considérées comme sérieuses, car elles semblaient manquer d'authenticité de par leur absence de compatibilité. Une étude très simple aurait suffi à lever le voile sur de prétendues antilogies. Il est intéressant de remarquer que parmi les quatre évangélistes, seuls Matthieu et Luc parlent de la filiation de Jésus. Ces deux généalogies particulières ont cependant une raison d'être qui pourrait échapper au premier examen. N'en est pas loin, très simple. L'évangile de Matthieu a toujours été appelé l'évangile du royaume. Écrit pour les Juifs et non pour les gentils, il établit Jésus comme étant le roi promis de tout temps par les prophètes. Matthieu fait remonter la souche du Messie à Abraham pour démontrer que le Christ est bien celui dont les Écritures parlaient en long et en large. L'évangile de Marc, quant à lui, passe sans préambule à la mission du Christ en ne mentionnant que très brièvement son baptême et sa tentation dans le désert. Il parle d'emblée de lui comme étant le sacrifice vivant de Dieu, celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc chapitre 10 et verset 45. Qui s'intéresse à la généalogie d'un serviteur? Marc n'en parle probablement pas pour cette raison-là. Luc, en écrivant aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, ne le présente pas comme fils éternel de Dieu, mais plutôt comme l'être parfait. L'intention de ne s'adresser qu'aux gentils le pousse à prouver que Jésus est descendant d'Adam et sauveur du monde. Il va donc très logiquement utiliser une généalogie, mais différente. Jean n'en parle pas, car dans son récit d'évangile, il a introduit le maître précisément comme fils éternel de Dieu, exempt de commencement. Il ne se sent pas concerné par son lignage terrestre. L'apôtre Jean nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1 et verset 1. Un peu plus loin, il ajoute, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. On voit donc très bien que chacun des quatre évangélistes poursuit un but précis mais différent dans sa relation avec l'évangile. Ce principe va aider à mieux comprendre le message divin dans son ensemble et à déceler ses tenants et ses aboutissants quant aux généalogies. Un examen de celle se situant en Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17, surprend au premier abord par la constante répétition du mot « engendrant ». Cela signifie, évidemment, que celui qui engendre est le père de l'enfant, que par conséquent, c'est bien son sang qui coule dans les veines de son descendant. Après Jacob, qui représente la 41e génération, le mot « engendra » disparaît pour faire place à la phrase suivante. Jacob engendra Joseph, époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Matthieu, chapitre 1, verset 16. Il n'existe donc aucun lien direct entre Jésus et Joseph. Ce dernier est un père adoptif. La Bible ne dit pas pourquoi. La raison en est tout simplement que chez les Juifs, un enfant mâle adoptif hérite de tous les droits d'un fils de sang. Jésus est le dernier descendant de David. Et si la situation politique avait été différente, il aurait même pu être couronné roi. Bien que toute notion de royaume soit laissée sous silence, la maison de David n'en continuait pas moins d'exister. Et de ce haut lignage aurait pu provenir le prochain roi. Joseph étant son père adoptif, Jésus avait donc légalement accès au trône royal. Pour que le Christ puisse recueillir l'héritage de Joseph, il fallait toutefois qu'il soit son fils aîné. Cela lui est reconnu de droit par sa généalogie, puisque c'est bien son nom qui y apparaît. Si Jésus avait par contre été le vrai fils de Joseph et non le fils adoptif, son accès au trône de David, pratiquement possible comme nous venons de le voir, aurait rencontré un obstacle insurmontable. Dans les veines de Joseph coulait également le sang de Jéhoiakim, contre qui Dieu avait prononcé la malédiction suivante. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence, car sa descendance, nul ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. Jérémie, chapitre 22, et verset 30. Si Jésus devait avoir accès au trône de David, mais sans que son ascendance soit entachée d'une malédiction telle que celle de Jéhoiakim, c'est évident. C'est pourquoi son adoption par Joseph prend un sens tout particulier.